vous solliciter en vote de confiance pour être autorisé à rester sur votre banc, car c'est nous qui décidons de cela.
C'est finalement Elisabeth Borne qui a été nommée Première ministre.
61% des Français veulent une majorité de députés opposés à Emmanuel Macron.
Les questions de principe, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est l'union.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette.
C'est la première fois depuis 25 ans que les élections législatives ont une telle place dans le paysage médiatique. Et c'est bien normal. Et puisque le scrutin approche à grands pas, on s'est dit qu'il était temps d'expliquer comment ces élections fonctionnent. Au cas où cela vous aurait échappé, nous vivons dans une démocratie représentative. Nous ne décidons pas directement de tout. Ben oui, c'est McKinsey qui décide. Nous élisons des représentants, députés, présidents, etc., qui, eux, décident pour nous. Ça permet de se partager les tâches. Mais qui dit partage des tâches dit supervision. Il faut surveiller et contrôler nos représentants. Ce ne sont pas juste des professionnels de la politique. Ils nous engagent collectivement en tant que peuple. Et le risque, c'est de se faire usurper notre souveraineté populaire. Pour éviter ces déboires, on a inventé deux garde-fous essentiels. La séparation des pouvoirs et les droits de l'homme. Hyper efficace, comme chacun a pu le constater. Les droits de l'homme sont censés assurer qu'un minimum de principes, l'égalité, la protection, la sécurité, la liberté notamment, soient garantis, quel que soit le camp politique au pouvoir. D'un autre côté, la séparation des pouvoirs, elle, est là pour essayer de mettre en concurrence les élus les uns contre les autres, pour faire en sorte qu'aucun ne puisse avoir tous les pouvoirs et usurper la souveraineté du peuple. On a alors l'idée de diviser les pouvoirs en fonction de ce à quoi ils servent. Le législatif fait les lois. Les 12 et 19 juin, on décide qui fait les lois. L'exécutif les fait exécuter. L'exécutif, là, c'est le nouveau gouvernement de Macron.
C'est finalement Elisabeth Borne qui a été nommée première ministre. L'ancienne ministre du Travail devient ainsi la seconde femme première ministre dans le pays après Edith Cresson. C'était en 1991.
Et le judiciaire punit et fait respecter la loi en mettant des robes rouges cheloues, là.
Je vous demanderai de rester debout, s'il vous plaît, monsieur.
Mais au moins, il n'y a pas de perruque.
I sentence you to life imprisonment.
La séparation qui nous intéresse est celle entre l'exécutif et le législatif. Elle vise à contrôler les représentants du peuple. L'idée, c'est d'éviter ce qui se passe en France, qu'un seul organe puisse cumuler beaucoup trop de pouvoir. Cette séparation est vitale. C'est elle qui est censée garantir que les représentants du peuple, nos gouvernants, n'abusent de leur pouvoir. Si la séparation des pouvoirs n'existe pas, ou qu'elle n'est pas respectée dans les faits, les droits du peuple courent un grand danger.
Félicitations, j'en ai trop de
dans un pays...
Oui, tu peux l'embarquer.
Mais on peut l'embarquer.
Et c'est pour cela que notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en fait une condition essentielle à tout régime démocratique. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. En 2022, les élections législatives sont le dernier levier dont le peuple français dispose pour garantir la séparation des pouvoirs pour les 5 prochaines années.
Les questions de principe, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est l'union pour gagner. Parce qu'il y a le mot gauche, si vous voulez, le signifiant gauche, qui donc maintenant, c'est l'extrême gauche, hein, le signifiant gauche, eh bien, ça leur suffit. Il faut que ce soit la gauche qui gagne. On s'en fout. Sur quelle base? Et tous les électeurs dans la manif, tous les gens le disaient dans la manif. Donc, c'est pas juste les appareils.
Pour l'heure, nul ne connaît le résultat de ces élections. Tout ce qu'on sait, c'est que... S'il est central de séparer les pouvoirs, alors voyons comment. Les spécialistes du droit constitutionnel, après avoir étudié des centaines de régimes démocratiques, ont trouvé deux grandes façons de séparer les pouvoirs. Elles se distinguent en fonction de la responsabilité politique de l'exécutif, à savoir si l'exécutif et le législatif peuvent se renverser. Autrement dit, l'exécutif est-il responsable devant le législatif? Si oui, c'est un régime parlementaire version européenne. Sinon, c'est un régime présidentiel version américaine. La version européenne de ce contrôle des gouvernants, c'est de les séparer, mais de leur permettre de se renverser l'un l'autre.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
En d'autres termes, si le gouvernement ne convient plus aux élus directs du peuple, ils peuvent le renverser. C'est la motion de censure.
La motion de censure est le moyen pour les députés de contrôler le gouvernement, de le censurer, de le renverser.
Cela veut dire aussi que le gouvernement doit être investi par l'Assemblée.
Et vous voici, Monsieur Castex, 12 jours après votre nomination, vous assumez enfin la responsabilité minimum qu'on attend d'un Premier ministre dans une démocratie parlementaire. Vous sollicitez un vote de confiance pour être autorisé à rester sur votre banc, car c'est nous qui décidons de cela.
Le gouvernement est alors un élément à part entière de la vie parlementaire. Il est sur les bancs de l'Assemblée, propose des lois, discute de la politique au milieu et avec les députés. Il est responsable de son action devant les élus directs du peuple.
He's going to be a great president of France. That's my prediction. It's only a prediction.
Thank you. Thank you very much.
Pour vous la faire courte, la version américaine de ce contrôle, c'est de trancher. On sépare nettement l'exécutif du législatif et aucun n'est responsable politiquement devant l'autre. On ne peut pas, sauf exception rarissime, mettre un terme prématuré au mandat d'un président. Et jamais pour les parlementaires. Les pouvoirs sont très séparés. L'exécutif ne peut intervenir qu'à la toute fin de la procédure législative pour opposer un veto et le législatif mène la politique qu'il veut. Autrement dit, chacun fait comme bon lui semble. C'est très important. On oublie souvent, quand on parle des régimes dits présidentiels, de rappeler que le président a beaucoup moins de pouvoir qu'en France, par exemple. Aux États-Unis, le Congrès fait vraiment ce qu'il veut dans son domaine. S'il est de gauche, il fait des trucs de gauche. S'il est de droite, il fait des trucs de droite. Et le président, il fait avec. Pour rendre le système un peu moins paralysant, les pères fondateurs américains ont organisé des passerelles, des ponts où les pouvoirs vont devoir négocier pour que l'ensemble marche. Par exemple, c'est le Congrès qui vote et décide du budget, mais le président a un droit de veto. C'est le président qui nomme aux emplois civils et militaires, mais le Sénat doit y consentir. Et c'est pas toujours facile. Autrement dit, aux États-Unis, on négocie tout le temps. Vous vous imaginez si Macron avait dû négocier avec tout le monde ces 5 dernières années ? Oui, on s'imagine, oui. C'est ce qu'on veut pour les 5 prochaines.
61% des Français veulent une majorité de députés opposés à Emmanuel Macron. Autrement dit, une cohabitation, quoi.
Oui, il y a un chiffre très inquiétant pour la majorité présidentielle derrière ce 60%, c'est que c'est 14% de plus qu'en juin 2017, au moment où il y a 5 ans, nous posions la même question.
Pour résumer, l'idée du régime parlementaire qui devrait s'appliquer en France, c'est de rendre ces organes solidaires pour qu'ils puissent se renverser et donc être responsables devant le peuple, qui peut être consulté pour trancher le différend. L'idée du régime américain, c'est de les séparer suffisamment pour qu'ils soient sans cesse obligés de négocier. On voit ainsi que partout, dans tous les régimes présidentiels ou parlementaires, le Parlement, que ce soit la Chambre des communes britannique ou le Congrès américain, détermine la politique nationale. Ce sont les députés et sénateurs, élus du peuple, qui dirigent la politique de leur pays. Aux États-Unis, le président est obligé de négocier. Dans un régime présidentiel, le président négocie tout le temps avec les élus du peuple. Il parlemente, il transige, il échange. Il ne peut pas faire ce qu'il veut juste parce qu'il le veut. Et les députés suivent comme un seul homme, non? Ça, c'est juste la France et les régimes autoritaires. Mais une autre France est possible. On voit à quel point les élections législatives deviennent importantes cette année. Le président réélu Emmanuel Macron ne dispose plus d'un soutien populaire aussi franc qu'en 2017. Et trois scénarios se présentent. Soit il obtient sa majorité tout seul comme un grand et c'est reparti pour exactement la même tambouille pour 5 ans. Soit l'Assemblée est divisée et personne n'a la majorité et il faut faire des alliances, c'est-à-dire négocier pour la politique du pays, transiger, offrir des garanties, des portefeuilles ministériels et des concessions sur le programme. Soit enfin, un autre parti, opposé au président de la République, parvient à former une majorité hostile. C'est la cohabitation.
Vous imaginez les communistes au gouvernement ?
J'en ai des sueurs nocturnes, Armand. La fin de la propriété privée, les queues devant les magasins vides.
Pas d'eau, pas d'électricité, les chars russes qui défilent sur les Champs-Élysées.
Les capitaux qui fuient en Suisse.
La faillite !
La guerre civile. Mais oui.
Bon alors concrètement, comment élisons-nous nos députés ? Autrement dit, c'est quoi notre mode de scrutin ? Alors, comme c'est un peu technique, on a demandé à deux spécialistes des trucs techniques de nous éclairer.
Les spécialistes des trucs techniques présentent les familles de modes de scrutin.
Un mode de scrutin, c'est la méthode par laquelle on va attribuer un certain nombre de sièges en fonction du nombre de voix recueillies.
Parmi les éléments qui composent le mode de scrutin, on compte un grand nombre de facteurs.
le nombre de circonscriptions, leur taille géographique, le nombre de sièges par circonscription, le nombre de tours, etc. Par exemple, pour les élections législatives en France, c'est un scrutin uninominal. Il n'y a qu'un siège, qu'un seul député par circonscription.
Et comme il y a 577 circonscriptions, il y a 577 députés.
On connaît trois grandes familles de modes de scrutin. Le scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel et le scrutin mixte qui mélange les deux autres familles.
Le scrutin majoritaire d'abord. C'est le plus ancien. C'est celui que la France connaît aujourd'hui et qu'elle a connu un long moment. Le principe est simple. Le parti qui arrive en tête des votes remporte tous les sièges de la circonscription, point barre.
Simple, efficace.
Le scrutin proportionnel propose de répartir aussi fidèlement que possible les sièges en fonction de la proportion des votes.
En gros, si vous avez 25% des voix, vous aurez 25% des sièges avec la proportionnelle intégrale. Mais comme la vie n'est savoureuse que parce qu'elle connaît ses petites complications, il y a des gens qui se sont dit « Et si on mélangeait un peu les familles ?» Et ça donne des scrutins mixtes.
Par exemple, la moitié des députés sont élus au scrutin majoritaire et l'autre moitié au scrutin proportionnel. C'est mixte.
Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy.
Non mais c'est n'importe quoi là.
Non, je ne me calmerai pas.
Les modes de scrutin ont des effets puissants sur la représentation politique qui est offerte au peuple. Plus encore, les modes de scrutin vont même dessiner des tendances dans les paysages politiques. Autrement dit, la façon dont nous élisons nos députés a un rapport direct avec notre manière de nous occuper de la politique et surtout, comment la politique s'occupe de nous.
Les enfants qui vont à l'école, c'est-à-dire les étudiants, si tu n'as pas d'argent pour que l'enfant puisse aller à l'école, il ne va plus à l'école. Ils sont dans les banlieues, ils traînent. Mais parce que c'est des conditions de travail qui sont tellement difficiles que nos enfants souffrent. Et après, ils s'affrontent avec la police. On les prend pour des délinquants, on les prend pour des voyous. Et jusqu'à ils partent mourir. Donc, arrivé un moment, il faut que la majorité de ces moments puissent aller en assemblée pour voter des lois concrètes pour que la France puisse aller bien.
Les élections législatives sont relativement simples. C'est un scrutin uninominal, majoritaire, à deux tours. En gros, au premier tour, si un candidat a plus de 50% des voix, il est élu directement. Sinon, tous ceux qui ont plus de 12,5% des inscrits et au moins les deux candidats les mieux placés vont au second tour. Et là, c'est le premier en lice qui est élu. Pas besoin des 50%. D'ailleurs, petit point de vocabulaire, quand il y a deux candidats au second tour, on appelle ça un ballotage. 3, une triangulaire et 4, une quadrangulaire. Et 5, quinquangulaire et 6, sexangulaire et moi aussi, je peux être le spécialiste des trucs techniques. En effet, la mécanique du scrutin majoritaire va permettre, avec une avance relative, 33% des voix, d'obtenir une majorité absolue, 50% des sièges. Allez, on s'accroche. L'exemple français illustre la disproportion entre le nombre de voix et le nombre de sièges. Par exemple, au premier tour des législatives de 2017, la majorité présidentielle n'avait obtenu que 32% des voix, mais a fini avec 60% des sièges. En 2012, pareil, la majorité présidentielle n'avait recueilli que 39% des voix au premier tour, mais avait terminé avec 57% des sièges. Enfin, en 2007, au second tour, la droite avait recueilli 49,66% des voix, alors que la gauche 49,08%. Autrement dit, un mouchoir de poche. Mais la droite avait empoché presque 60% des sièges. Un demi-point d'écart a doublé les députés d'un camp par rapport à l'autre. Mais comment ça se fait ? Alors là, c'est très compliqué. Donc, si vous y tenez, on fera une vidéo explicative. Et pour le dire, dites-le en commentaire. Je sais pas, écrivez « Le peuple veut des raisons ». Et puis, on s'inclinera devant le peuple souverain et on fera la vidéo. Ce mode de scrutin induit une représentation nationale biaisée et donne des pouvoirs hégémoniques à une majorité qui ne représente qu'une minorité de Français. Et ça n'aide pas à la confiance en les institutions. Alors, on avance souvent pour défendre ce système qu'il permettrait la stabilité gouvernementale et empêcherait le parlementarisme intempestif.
Ah oui, la 4ème République et le zbeul que mettait le Parlement tous les 4 matins.
Tout d'abord, il faut dissiper ce mythe tenace. La 3ème République, qui avait un scrutin majoritaire, a connu d'importantes périodes d'instabilité. À l'inverse, l'Allemagne, dans un régime mixte avec une très forte composante proportionnelle, connaît une stabilité politique quasiment à toute épreuve.
Avec le départ de celle que l'on surnomme la chancelière éternelle, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'Allemagne.
Mais en plus, à force d'étouffer le parlementarisme vu comme intempestif, on finit par tuer dans l'œuf toute possibilité de contre-pouvoir effectif. Avec des majorités aussi fortes, aussi disciplinées et fidèles, le gouvernement et le président ont la main mise sur toutes les ressources politiques.
Et la séparation des pouvoirs, dont on a vu l'importance pour la démocratie, s'en trouve sérieusement mise en danger si les députés, qui sont censés contrôler l'exécutif, préfèrent s'y soumettre allègrement. Le mode de scrutin français aggrave donc cette défiance qu'on entretient à l'encontre de nos institutions. Et donc, c'est prévu qu'on le change bientôt, ce mode de scrutin ? La proportionnelle est une solution. Pour en revenir à l'Allemagne, elle a un mode de scrutin des députés extrêmement compliqué. Pourtant, en 2021, lors des dernières élections législatives, les Allemands, malgré un mode de scrutin complexe, sont massivement allés voter. C'est environ 23% d'abstention seulement. La dernière fois que des législatives en France ont fait un tel score, c'est en 86. À partir de là, que faire ? Les élections législatives sont, malgré leurs défauts, la seule solution pour déterminer la politique des 5 prochaines années. Le président, sans majorité, se retrouve comme un marteau sans manche. C'est une enclume. Il faut retrouver un Parlement fort, décisif et au centre des grandes tractations et tribulations de la vie politique du pays, sans que le nom d'un monarque président soit toujours ramené au devant de la scène, comme si, au fond, les ministres et députés n'étaient que des prête-noms pour sa sainteté de l'Élysée.
Vous avez le sentiment que ces textes ne sont pas écrits par des parlementaires ou par leurs équipes ? Les textes qui sont votés à l'Assemblée nationale ?
Mais ils ne sont jamais écrits par des parlementaires.
Par qui alors ?
Ils sont écrits par les ministères, qui eux-mêmes les délèguent à leur cabinet ministériel, qui eux-mêmes les font travailler par des cabinets de conseil parfois, pas toujours. Et dans une succession ainsi de personnes, on se retrouve avec des textes qui ont pour objectif un mot d'ordre qui est « surtout, ne changeons rien ».
Il faut que les gouvernants se rendent des comptes face à face. Il faut que nos ministres cessent de se revendiquer du président et assument eux-mêmes leur ligne. Il faut que les ministres et le premier en tête redeviennent vraiment responsables. Il faut que le nouveau chef soit celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Un gouvernement collégial, responsable et investi par les élus du peuple. Le président est irresponsable. On ne peut rien contrôler de ce qu'il fait. Quand il veut encore plus se protéger, il invente des conseils de défense où rien ne peut sortir, où tout est secret et la responsabilité impossible. Les ministres, eux, sont responsables et investis par les élus du peuple.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, ainsi que l'actuel directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ont vu ce matin leur bureau et leur domicile perquisitionnés, avec d'autres responsables politiques, hein, les domiciles d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, de Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole du gouvernement, ont également été perquisitionnés, tout cela dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur la gestion de la crise du coronavirus.
Si, cette année, le peuple donne le pouvoir au ministre, qu'il fera choisir et pourra faire révoquer par les députés. Si le peuple met fin à cette monarchie présidentielle inutile, dysfonctionnelle, dangereuse et débilitante, où un seul conduit et détermine la politique de toute la nation, alors le peuple commencera à retrouver le chemin de la démocratie. Longue sera encore la route.
We need a system where the politicians sit down and discuss the problem. Agree what's in the best interest of all the people, and then do it.
That's exactly what we do. The trouble is that people don't always agree.
Well, then they should be made to.
By whom? Who's going to make them?
I don't know. Someone.
You?
Of course not me.
But someone.
Someone wise.
Sounds an awful lot like a dictatorship to me.
Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois.
Allez, je vous quitte avec une petite citation inspirante du genre du passé, faisons table rase. Foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout.
Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Abonnez-vous et faites un don à Blast.